Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans un instant. Vous connaissez le programme. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité et ensuite notre débat sur l'affaire Aliou Sall, cette affaire qui secoue le Sénégal. Mais d'abord, comme promis, Alexis Fricker, vous êtes resté dans ce studio.
Et oui.
Je vous en remercie.
Malgré
vous
moi.
Malgré vous. On ne vous a pas attaché. Vous avez présenté ce matin votre dernier journal après 10 ans de matinale.
Oui,
si ma mémoire
oui,
est bonne.
Plus ou moins.
Plus ou moins. Alors vous quittez RFI pour une période assez longue, mais vous allez revenir.
Oui.
Vous partez pour mieux
ça,
revenir.
C'est ça, exactement.
C'est une belle stratégie.
C'est...
Alexis.
Une manière de prendre l'air, un peu.
Voilà, mais vous avez raison. Alexis Fricker, c'est un secret pour personne. Vous êtes un journaliste talentueux. Un intervieweur hors pair. Vous êtes capable d'improviser. Combien de fois je vous ai vu arriver dans ce studio, juste au début du journal, sans la moindre feuille, le moindre papier, vous êtes capable d'improviser. Mais il arrive parfois, même au meilleur, de bafouiller.
Oui,
oui.
Souvent, hein,
de se mélanger les pinceaux. Écoutez ce petit bêtisier réalisé par les réalisateurs de RFI Matin.
Des frères musulmans en Égypte ont été arrêtés alors que les élections législatives, décidément, j'y arrive, se dérouleront dans 8 jours. L'empire du milieu doit penser à restructurer son secteur car la Chine produit beaucoup trop d'acier clairfage. L'actualité, c'est aussi du sport et du football. Hier soir, la France a battu le Portugal 2-1 au Stade de France. 22, ça ferait beaucoup. Ce serait beaucoup trop large comme score. Prochain match pour l'équipe de France, ce sera mardi en Arménie.
Ils sont en grève depuis un mois et demi. Reportage Abla Junaidi.
Ce duel 100% espagnol entre David Ferrer et son adversaire Granollers, Almagro, lui, pardon, va jouer. Voilà, je me reprends, en fait, c'est l'émotion liée à ces matchs de tennis à Roland-Garros. Et voilà, à suivre encore aujourd'hui l'affrontement entre Rafael Nadal, espagnol, et l'argentin Monaco.
Merci d'être allé jusqu'au bout, Alexis Fricker, il est 7h43, fin du match. Et on a reconnu également la voix d'Arnaud Pontus. Voilà.
Merci.
Une partie de l'équipe d'RFI Matin est dans ce studio et en régie. Voilà, c'est un clin d'œil réalisé par Benoît Vanderbroek et Arès Sieradag. Alexis Fricker, bonne continuation.
Benoît VDB, hein, qu'on reconnaît en fait pour avoir effectivement réussi à compiler tout ça, parce que ça fait des années qu'on a travaillé ensemble, ça fait peut-être des années qu'il réfléchit.
Voilà. Bravo. Merci. À lui. Et bravo à vous, Alexis Fricker. À dans un an, peut-être?
Oui, un moment. On se retrouvera, très certainement.
Pouponnez voilà. Bien.
Merci.
Pouponnez bien.
Merci beaucoup.
À bientôt,
merci,
Alexis.
Merci,
et merci à tous de votre fidélité. On va reprendre le cours de cette émission avec vos questions à la rédaction. Beaucoup de questions après l'annonce la semaine dernière de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de vouloir mettre en place une future monnaie. Évidemment, le sujet est important. Il est intéressant. Ce qui suscite des réactions et des questions au standard. Serge, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous vos auditeurs et salutations à Alexis Fricker.
Il vous écoute, il vous remercie. Vous nous appelez de Reggio Emilia, c'est en Italie. Exactement. Vous écoutez RFI entre Bologne et Parme. On vous écoute, quelles sont vos questions?
En effet Juan, la semaine dernière, les États de l'Afrique de l'Ouest ont confirmé leur volonté en vue de mettre sur pied d'ici l'année prochaine, dans 2020, une monnaie unique. Ce projet de monnaie unique date des années 1980. Quels sont les obstacles qui ont empêché jusqu'à ce moment la mise sur pied de cette monnaie?
Alors, effectivement, c'est vrai que c'est un serpent de mer, cette monnaie unique de la CEDEAO. Olivier Roger, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service économie de RFI. La semaine dernière, il y a donc eu cette réunion à Abidjan, autour de la table, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des 15 pays membres de la CEDEAO. L'objectif est donc de mettre en place cette monnaie à partir de l'année prochaine, dès 2020. On va voir avec vous que les choses ne sont pas si simples. Ce qui est sûr déjà, c'est que la semaine dernière... un consensus a été trouvé autour du nom de cette monnaie unique. Elle s'appellera Echo. D'autres modalités ont été également mises en place. Elles devront encore être adoptées. Samedi, par les différents chefs d'État de la CEDEAO, samedi, il y aura ce grand sommet à Abuja, au Nigeria. Mais c'est vrai que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans même qu'on parle de cette monnaie unique. Qu'est-ce qui freine?
Alors d'abord, ce qui a freiné pendant 30 ans, c'est l'absence de volonté politique. Clairement, c'est un projet qui est resté dans les cartons parce que les chefs d'État ne souhaitaient pas bouleverser les équilibres et les habitudes. Par contre, depuis 2 ans, les choses commencent à évoluer sérieusement. Depuis 2017, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de relancer cette idée de monnaie commune, un peu aussi sous la pression des populations qui veulent maintenant, qui exigent que les choses avancent un petit peu plus vite. Imaginez que l'on puisse demain, de Dakar à Lagos ou d'Abidjan à Niamey, payer avec la même monnaie dans un même espace commercial et douanier. Ce serait pour les 300 millions d'habitants de l'Afrique de l'Ouest une véritable révolution, et c'est ce que réclament aujourd'hui les populations.
Alors, parmi les obstacles, il y a l'arrimage, notamment l'arrimage des 8 pays de la zone franc au trésor public.
Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà au sein de la CEDEAO une zone monétaire, c'est la zone franc, tout le monde le sait, en Afrique, créée par l'ancienne puissance coloniale, la France. Quand sera-t-il demain de cette zone franc? Le franc CFA est arrimé à l'euro via le trésor français en échange d'une garantie de convertibilité absolue. Mais des pays comme le Nigeria plaident pour une déconnexion de cette zone CFA avec Paris. On ne peut pas avoir une monnaie commune dans la CEDEAO si le lien perdure. C'est ce que disent les Nigérians, c'est ce que disent aussi d'autres dirigeants qui ne sont pas de cette zone franc. Alors l'idée a fait son chemin car il a été décidé au cours du sommet d'Abidjan de la semaine dernière que la future monnaie aura un régime de taux de change flexible avec un panel de devises dont l'euro. Et la future banque centrale sera basée sur un modèle fédéral, ce qui était là aussi une exigence des Nigérians. Les obstacles seraient donc levés, du moins dans les têtes. Chacun comprend que pour créer une monnaie commune supranationale, il faudra à terme supprimer le franc CFA.
Autre obstacle important, la convergence.
Oui, et ça c'est peut-être le plus gros de tous les problèmes. Pour partager une monnaie commune, il faut que les économies se rapprochent, que les pays qui l'adoptent aient peu ou prou le même niveau d'inflation, de déficit budgétaire, de croissance économique, de croissance de la masse monétaire. Il faut que les politiques fiscales et commerciales soient harmonisées pour éviter tout un tas de déséquilibres. Et là, on n'y est pas encore. On peut même dire que les pays prennent du retard par rapport au calendrier de convergence qui a été mis en place au sein de la zone. Ce retard fait que la date de 2020 pour l'entrée en vigueur de la monnaie commune a très peu de chances d'être respectée dans l'état actuel des choses. Tout le monde le pense, mais on commence à le dire plus ou moins ouvertement. D'ailleurs, les ministres des Finances disaient clairement la semaine dernière à Abidjan que les retards dans la feuille de route sont de nature à compromettre ces échéances. Donc, faut pas s'attendre à cette monnaie pour 2020. Tout dépendra ensuite de la capacité des pays à respecter cette feuille de route de convergence qu'ils ont mis en place. Les pays de la zone CEDEAO devront soumettre avant la fin du mois d'octobre leur programme pour la période 2020-2024. Donc vous voyez, on se donne un petit peu de temps au sein de la CEDEAO. On ne veut pas mettre la charrue avant le zébus, hein, et bien harmoniser les économies avant de se lancer dans cette monnaie.
Allez, vous aviez une autre question, Serge?
En effet, Juan. Donc, ces différents pays partagent en fait des politiques monétaires différentes. J'aimerais savoir donc si des critères de convergence pouvant être mis sur pied, oui, lesquels?
Alors, des critères de convergence, oui, il y en a. Ils ont même été un peu revus à la baisse, voilà. si je crois bien.
Oui, il y en avait 11 au départ, on les a ramenés à 6 pour faciliter le processus. Il y a des critères classiques, hein, monétaires, comme l'inflation, elle doit être contenue sous la barre de 5%, les déficits budgétaires qui doivent rester sous le seuil de 3% du PIB, le déficit commercial doit lui aussi être contenu dans certaines limites, la croissance et la masse monétaire doivent elles aussi respecter certains équilibres, et les réserves de change doivent atteindre une certaine taille. Alors, les ministres réunis à Abidjan ont révélé que les performances de convergence ont quelque peu reculé en 2018 par rapport à 2017. C'est vraiment pas bon signe. Les déficits budgétaires, par exemple, se sont creusés et seuls aujourd'hui 5 pays respectent ce critère de convergence. Ils étaient 7 en 2017, donc on a reculé. Par contre, pour d'autres critères comme l'inflation ou le financement du déficit budgétaire par la Banque centrale, là, ça va un peu mieux. Entre 12 et 14 pays respectent ces critères. Notez qu'aucun des pays n'a respecté tous les critères en 2018. Ils étaient 3 à respecter tous les critères en 2017. Ce qui pose d'ailleurs un débat intéressant, celui de savoir dans quelle mesure on doit respecter tous les critères pour avancer. C'est un débat économique important pour les décideurs parce que il faut savoir, est-ce que la convergence est une condition nécessaire ou un objectif. Les économistes rappellent par exemple que au sein de l'Union européenne, on avait finalement fait de ces critères de convergence une condition, mais un objectif plus qu'une condition. C'est-à-dire que on a choisi un moyen terme entre la nécessité de les avoir tous réunis et la nécessité d'avancer ensemble. Et finalement, plus les économies convergeront ensemble à mesure que la monnaie sera adoptée, finalement la convergence se fera en partie d'elle-même. Donc c'est un débat là encore que les chefs d'État doivent trancher.
Débat technique, mais important évidemment. On aura l'occasion de vous donner la parole sur cette future monnaie dans les prochains jours. Olivier Roger, restez avec nous. Autre question, toujours sur cette thématique. Modeste, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour Alexis.
Vous êtes à Porto Novo, au Bénin. On vous écoute.
Oui, oui. Bon, ma préoccupation ici, c'est qu'une fois que la monnaie sera mise sur place, dans quelle mesure elle pourrait favoriser la compétitivité des États et donc leur économie?
Olivier Roger.
Alors, indubitablement, cette monnaie unique devrait rendre plus fluide les échanges au sein de la zone monétaire. Actuellement, il faut savoir que le commerce au sein de la CEDEAO intra-régionale ne représente que 11% du commerce des pays. Ça veut dire que ces pays commercent plus avec le reste du monde qu'entre eux. En Europe, il faut savoir que le commerce intra-communautaire représente plus de 60% du commerce des pays européens. Donc, la monnaie risque de favoriser l'intégration régionale, les échanges régionaux et donc la croissance, c'est évident. Quant à la compétitivité, si cette monnaie possède un taux de change flexible, cela pourrait permettre aux économies de la CEDEAO de s'adapter plus facilement aux variations de taux de change. Par exemple, quand le dollar ou l'euro montent, on sait que les pays qui sont arrimés à l'euro ont du mal parfois à exporter plus facilement. Si les taux de change sont flexibles, on aura plus de souplesse et on pourra s'adapter plus facilement aux contingences mondiales et à la donne mondiale. Donc là encore, ça pourrait améliorer la compétitivité. Par contre, les pays devront, comme en Europe, adapter les critères de convergence aux réalités économiques. Par exemple, le déficit budgétaire est souvent considéré comme trop restrictif pour des pays qui ont besoin d'acheter des équipements, de se moderniser, de devenir plus compétitifs, donc générateurs de croissance et de richesse. Il va falloir, là encore, prendre en compte ces réalités. La politique économique et budgétaire et monétaire peuvent se marier, mais ce mariage doit être équilibré.
L'expertise d'Olivier Roger, merci beaucoup d'être venu répondre à quelques-unes des questions reçues sur cette future monnaie unique de l'espace ouest-africain de la CEDEAO. Il est 10h23 ici à Paris, 8h23 en temps universel. D'autres questions? Alseini, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Vous êtes en Guinée, vous nous appelez de l'Abbé exactement, et vous avez des questions concernant l'opposant tchadien Mahamat Nouri.
Bien sûr. L'opposant tchadien Mahamat Nouri a été mis en examen en France pour crimes contre l'humanité commis au Tchad et au Soudan. Comment expliquer qu'il a été arrêté dans le cadre d'une enquête menée par la France?
Effectivement, et d'ailleurs vendredi soir, la justice française a ordonné son maintien en détention provisoire pour crimes contre l'humanité. Bonjour Esdras Dikoumana.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. La justice française soupçonne Mahamat Nouri d'avoir, je cite, « diligenté des opérations de recrutement forcé de combattants, dont des mineurs ». Expliquez-nous pourquoi cette enquête est menée par la justice française.
Eh bien, si on revient un peu sur l'historique de cette enquête, eh bien, elle a été ouverte par la France en 2017, en mai 2017, et cela en vertu de la compétence universelle qui autorise l'État français à poursuivre toute personne qui a commis un crime grave à l'étranger, si cette personne, et c'est ça qui est important, si cette personne réside en France. C'est le cas pour le général Mahamat Nouri qui vit dans la région parisienne depuis 2011, lorsqu'il est arrivé en France en provenance du Qatar où il s'était réfugié dans un premier temps. Ce qu'il faut ajouter ici, c'est que officiellement, il n'y a eu aucune plainte contre lui. Le pôle crime contre l'humanité et crime de guerre du tribunal de Paris s'est autosaisi à la suite d'un signalement de l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sur Abakar Tolimi. C'est un autre opposant tchadien placé sous le régime de témoins assistés dans le cadre de la même affaire.
Est-ce que cette enquête est menée en collaboration avec les autorités tchadiennes ou pas du tout?
Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas encore de réponse officielle jusqu'ici du côté du parquet français, mais sachez que le pôle crime contre l'humanité et crime de guerre du tribunal de Paris enquête sur ce sujet depuis 2 ans. Eh bien, ils ont entendu les grandes organisations internationales qui ont produit des rapports sur les violations des droits humains au Tchad et au Darfour durant cette période. Ils ont décortiqué les rapports des Nations Unies et donc ils ont épluché. Voilà. Mahamat Louré donc a d'ailleurs été interrogé sur ces faits-là. Mais est-ce qu'il y a eu un volet tchadien à cette enquête préliminaire? Sachez que le ministre tchadien de la Justice que nous venons d'avoir, eh bien, déclare qu'il n'y a eu aucune collaboration jusqu'ici.
Voilà. En tout cas, la justice française soupçonne Mahamat Nouri d'avoir, je le rappelle, diligenté des opérations de recrutement forcé de combattants, dont des mineurs, au Tchad et au Soudan entre 2005 et 2010. Merci beaucoup, Esdras Dikoumana, d'être venu répondre à Alseni, qui nous appelait de Guinée. La dernière question de ce matin, elle nous vient de Côte d'Ivoire. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Wan, bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
Merci de nous appeler d'Abidjan. Vous avez des questions sur la situation en Éthiopie après la tentative de coup d'État de samedi dernier?
Oui, monsieur Wan, en effet, comme vous l'avez déjà appris par la radio du monde, qu'il y a eu une tentative de coup d'État en Éthiopie. Et maintenant, ce qui a coûté la vie au chef d'état-major plutôt, de l'armée, ainsi qu'un gouverneur. J'aimerais savoir qui sont les putschistes. Et qu'est-ce qu'ils revendiquent?
Alors, qui sont les putschistes? On va déjà voir ce qui s'est concrètement passé samedi soir, car c'est un peu confus. Alain Gascon, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'être avec nous. Spécialiste de l'Éthiopie, professeur émérite à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Revenons en quelques mots d'abord sur les faits. Samedi soir, il est 18h30, heure locale. Une réunion se tient dans la capitale de la région d'Amara. Et là, que se passe-t-il?
Et bon, d'après ce qu'en dit la presse, hein, parce que moi j'étais à Paris, celui qui est chargé de la sécurité dans la région Amara, le général Assaminao Tsege, a tué ou fait tuer le président de la région qui s'appelle Anbacho Makonnen, et au même moment le chef d'état-major de l'armée, le général Sara Makonnen, lui aussi a été tué.
Et lui est tué à Addis Abeba. Donc deux événements à des centaines de kilomètres, mais deux événements qui sont liés.
Ou alors effectivement, bon, on n'en sait pas tellement plus. Hein. Moi, j'ai regardé un petit peu ce matin. J'ai regardé France 24. Il y a un extrait du journal Reporter, le journal éthiopien en Amérique. Bon, il y a des photographies. Je veux dire, on n'en sait pas grand-chose. Hein.
Et sait-on davantage sur les commanditaires alors?
Alors les commanditaires, là aussi, si vous voulez, il faut être sérieux. Hein. Je veux dire, les milieux qui sont au gouvernement en Éthiopie sont des milieux restreints, des milieux dans lesquels il est très difficile de pénétrer. Hein. Et puis, il faut ajouter que les Éthiopiens, quand même, ont aussi le sens du secret. Hein. Je veux dire, c'est une tradition, on ne dit pas, effectivement, surtout à des étrangers, les soucis, ça fait partie.
Ouais.
Alors, bon, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir que le Premier ministre, Abiy Ahmed, a immédiatement réagi à la télévision. Il est apparu en treillis militaire. Hein. Mm-hmm. Il faut savoir que ce président a d'abord eu une carrière militaire, puisqu'il a fait partie du parti Oromo qui a participé à la chute de Mengistu Haile Mariam en 1991. Il était très jeune à l'époque. Et ensuite, après, il a été dans l'armée et il a fait des études. Et c'est quand même quelqu'un qui est sorti du sérail militaire. Le général Sara Makonnen, lui, était chef d'état-major depuis pas mal d'années, l'armée éthiopienne, c'est une armée qui a beaucoup souffert, hein, si j'ose dire, enfin, on peut dire comme ça. C'est une armée qui a subi un échec en 1991, lorsqu'elle a été défaite par les fronts de libération d'Érythrée et du Tigray, et puis qui a été totalement démobilisée, puisque je suis allé quelque temps après la chute de Mengistu. C'était ce qui maintenait l'ordre, c'était comment dirais-je, c'était la fin, c'était
en tout cas pour revenir aux événements, en tout cas pour revenir aux événements de la semaine dernière, celui qui est considéré comme le principal suspect a été abattu, c'est ce qu'on a appris hier, abattu par la police. Merci Alain Gascon d'avoir pris quelques minutes pour tenter de nous éclairer évidemment sur la situation en Éthiopie. À suivre le journal et on revient dans 10 minutes, on parlera de cette affaire qui secoue le Sénégal, l'affaire Aliou Sall.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.